Bonjour chers amis. J'attends peut-être encore une minute. Ah ben, je peux commencer. Je vois. Voilà. Seigneur Jésus, tu sais que je t'aime infiniment et que je suis indigne. Je ne suis pas à la hauteur pour t'aimer. Mais apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te servir, apprends-moi à parler convenablement de toi, apprends-moi à aimer les autres, Seigneur. Et Seigneur, je demande pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui, oui, apprends-leur, apprends à mes amis qui écoutent à t'aimer, apprends à mes amis qui écoutent à aimer les autres plus qu'eux-mêmes, à surmonter tout le mal qui parfois ressurgit en nous, à surmonter la vieille nature. Seigneur, je sais que tu nous appelles à devenir semblables à toi. Et je m'en réjouis, nous deviendrons semblables à toi quand nous te verrons face à face. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Je me suis posé la question, c'est bien la première fois, je vais vous le dire. Pourtant, j'ai donné pas mal d'enseignements, de prédications. Je me suis posé depuis 2-3 jours la question, mais pourquoi y a-t-il autant de jours entre la résurrection de Jésus et l'ascension au ciel? Et puis la Pentecôte. Donc, de la résurrection, la fête de Pâques, si vous voulez, il y a 3 jours à la résurrection, 3 jours selon le calendrier juif. Et puis, Pentecosta, il y a 50 jours jusqu'à Pentecôte. Hein. Penta, c'est 50 en grec, et Costa, jour. Eh bien, il y a aussi, évidemment, 40 jours dans lesquels Jésus fréquente ses disciples et puis il monte au ciel. C'était l'ascension hier, Jésus est monté au ciel. Je reparlerai de ce que ça veut dire monter au ciel. Parce que Enoch est monté au ciel, Élie est monté au ciel. Et pourquoi Jésus est-il monté au ciel? Et pourquoi allons-nous monter au ciel? Et pourquoi, dans certaines doctrines, on prétend que tel saint ou tel sainte sont montés au ciel, alors que la Bible ne le dit pas, et qu'il faut attendre le retour de Jésus pour être enlevé? Pourquoi certains ont-ils eu l'audace de dire que certains saints, certaines personnes sont montées au ciel, et même dans d'autres religions? Je ne crois pas que ce soit juste, mais enfin voilà. Alors, pourquoi cette longue période? D'abord, je me suis intéressé à Moïse, et j'ai vu que Moïse a été pendant 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, et puis après a servi le Seigneur, a conduit le peuple dans le désert pendant 40 ans, chaque fois 40. Nous voyons que Jésus a jeûné, dans Matthieu chapitre 4, 40 jours. Le chiffre 40 semble important. Et voilà qu'après la Pâque juive, il y a bien sûr 40 jours après l'ascension. Donc, résurrection et ascension, 40 jours. Pourquoi? Bien, j'ai pensé, j'ai réfléchi à ça et j'ai été lire dans la Bible, bien sûr, pour pouvoir réfléchir. Le premier point, c'est que Jésus voulait fonder un nouveau peuple, selon les Écritures. Mais on va voir comment. Parce que le judaïsme traditionnel se prétend fidèle aux Écritures. Alors nous allons voir comment Jésus a pensé fonder et a fondé un peuple selon les Écritures. La deuxième chose, il a voulu créer l'unité des frères et des sœurs. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable. La cohésion spirituelle des vrais croyants. Alors, prenons le premier point. Le premier point, fonder le nouveau peuple selon les Écritures. Lorsque nous lisons Luc chapitre 24, Luc était un médecin grec qui s'est converti au contact de Pierre et de Paul et qui a abandonné sans aucun doute son métier, on ne sait pas exactement, mais elle a certainement été très absorbée par son ministère nouveau, Luc 24. Et nous voyons que Jésus intervient.
Oui.
Ah, vous êtes sur Facebook. Ok, ça va.
Jésus intervient. Et il faut savoir déjà une chose. Dans Luc 24, quand les anges parlent aux femmes, voilà ce que les anges disent à ces femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Première chose, Jésus est vivant. Pendant ces 40 jours, il va apparaître avec son corps, il va manger avec eux, il va marcher avec eux, il va se déplacer, et donc il est vivant. On peut dire que le Christ Jésus est vivant. J'en ai la conviction, autrement je ne vivrai plus aujourd'hui. J'en ai la conviction, je l'ai expérimenté. Puissiez-vous en faire l'expérience aussi, que Jésus est vivant. Dans des grandes épreuves, parfois, c'est le moment de demander à Jésus d'être entre l'épreuve et nous, entre l'ennemi et nous, ou entre les égarements que nous avons et nous, s'interposer. Pour qu'on ne tombe pas dans les égarements et tentations et les idées qu'on a toujours entretenues et nourries et qui ne nous amenaient à rien du tout, sauf à nous détruire, et détruire les autres. Alors, premier point, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors, on voit tout de suite que quand elle retourne vers les disciples, au verset 11, les disciples, les hommes, disent ceci, au verset 11. Ils tinrent ces discours, donc les propos des femmes, pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes. Donc pour des racontards, des fables, des divagations, des délires. Ça, c'est bien, c'est tous les hommes. Hein. On est tous capables de faire ça. C'est le côté macho de l'homme et le côté incrédule, où le cœur est plus difficilement touché. Et Jésus, bien sûr, va aller plus loin, il va visiter un chemin qui conduit de Jérusalem à Emmaüs, et il va tomber sur deux disciples qu'il avait connus, et au verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, c'est tout le problème pendant les 40 jours. Plein de gens vont fréquenter Jésus, il va falloir qu'ils le reconnaissent, qu'ils apprennent à le reconnaître, qu'ils dépassent leur incrédulité. Et chaque fois que quelqu'un l'a vu et expérimenté qu'il était vivant, chaque fois il va y avoir la réaction, c'est des raconteurs. Moi si je ne le vois pas, je ne croirai rien, etc. C'est une attitude humaine classique et qui est encore générale maintenant et qui nous concerne. N'oublions pas. Je ne fais pas ce message-là pour faire des fables, hein. Alors, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, donc il y a quelque chose en nous qui nous empêche de reconnaître Jésus. C'est notre incrédulité, c'est une force en nous qui nous oppose à faire l'expérience de Dieu. Il faut demander pardon à Dieu pour cette force qui est en nous et qui nous empêche de le connaître et de faire l'expérience de sa personne. Il faut demander pardon. C'est quelque chose qui vient d'Adam et Ève. Et il faut demander pardon, c'est en nous, il ne faut pas le nourrir. On ne nourrit pas un chien qui va manger tous les voisins et les enfants de l'école à côté. On le met en cage ou même on le pique. Eh bien, il ne faut pas nourrir en nous ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais, c'est un point central, c'est l'incrédulité. Alors, au verset 17, il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Il y a autre chose qui peut arriver. On n'est pas vraiment incrédule, opposé, mais on est mélancolique, on n'arrive pas à s'accrocher. On n'arrive pas à sortir de son bourbier, on n'arrive pas à sortir de son état moral cassé, brisé. On est tendu, on est déchiré entre toutes sortes de choses et on est triste. Cette mélancolie diminue les forces chez quelqu'un. Cette mélancolie, cette tristesse intérieure diminue la façon, la possibilité de vivre heureux et de s'engager. C'est quelque chose de très dangereux, la tristesse. Et il y a des gens qui traînent une tristesse tellement grande, très profonde, qu'ils n'en parlent même plus. Et ça donne de la fibromyalgie, ça donne des tas d'autres choses, sclérose en plaques. Ça se focalise au plan physique. Et tout cela n'est pas comblé par des médicaments ou des séances de thérapie. Il faut une guérison spirituelle et Jésus est venu pour ça. Jésus est là pour ça. Alors Jésus s'adresse au verset 17, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Jésus parle. Jésus s'adresse, il est vivant. Donc, comme une dame d'Arlon me disait, je l'ai visité longtemps, « Comment se fait-il que vous, vous me donnez l'impression de connaître Jésus et qu'il vous parle ?» Je n'ai pas voulu raconter toute ma vie intérieure, spirituelle, mais ce qu'il y a, j'ai dit, mais quand je lis la Bible, le Seigneur me parle. Parce qu'avant de commencer, je dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton enfant écoute. Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Et vous savez, ce miracle existe, de ne plus être seul sur la terre, de ne pas être orphelin, et de ne pas être un handicapé moral et spirituel, comme la plupart des gens. La plupart des personnes. Ça me touche profondément de voir comment nous, en Gaume, la plupart des gens sont atteints par ces états intérieurs. Je ne les juge pas. Ça me touche et j'aimerais bien qu'ils en sortent. J'ai été encore à la boulangerie ce matin et je croise des gens qui courent, qui rentrent, qui sortent. Je n'en vois pas un qui rayonne, je n'en vois pas un qui est... Il court pour des besoins, c'est tout. Ils ne rayonnent pas, il n'y a rien. Et on dirait qu'ils ont fermé la porte à jamais. Puisqu'ils n'ont pas trouvé de réponse, ils ne veulent plus se poser de questions. Et ils mettent des portes blindées, des verrous en acier à leurs portes. C'est pas possible. Et je pense que pendant les 40 jours, Jésus a forcé les portes. Des hommes qui sont faits comme nous et qui seront les au départ de l'Église. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Les premiers chrétiens n'ont pas été différents de nous et de ce que d'autres que nous rencontrons dans la rue. Ils sont faits de chair et d'eau. Et ils ont les mêmes problèmes moraux et spirituels. Alors, même s'il y a 2000 ans de ça. Alors, Jésus s'adresse à eux, bien sûr. Et au verset 25, Luc 24, verset 25, Jésus leur dit aux hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc il y a quelque chose, une négligence profonde. Ce sont des gens qui ont entendu les prophètes, donc c'est des juifs, ils ont reçu des enseignements à la synagogue et au temple, mais ils n'arrivent pas à croire. Ils sont très lents, ils en prennent le 10%. Dans les personnes âgées, plus âgées que moi, il y a encore beaucoup de gens qui ont, cette foi-là, ils ont reçu des enseignements dans l'Église catholique et dans les pays protestants aussi. Et ils ont quelque chose en eux sur lequel on peut se baser pour parler. Chez les personnes qui sont musulmanes, que je rencontre, même qui sont beaucoup plus jeunes, ils ont une base, ils savent que Dieu existe, que Dieu est grand et souverain. Il y a une base pour pouvoir parler. Et ils sont moins lents à croire que beaucoup de citoyens belges ou français qui sont devenus athées. C'est-à-dire, ce n'est pas négatif, ce n'est pas un jugement de ma part, sans Dieu. Ils sont venus sans Dieu. Et ils se sont habitués à être sans Dieu. Ils ne voient pas ce qu'il y aurait d'intéressant à se retourner vers Dieu ou s'intéresser à Dieu. Et là, ici, nous voyons que le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, Jésus prend les prophètes, prend l'Ancien Testament et veut éclairer ces personnes. Verset 27, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oui, ça c'est fort important. Moi, le changement dans ma vie de foi a été très lent. Très très lent. Et c'est un verset dans Jean, chapitre 5, verset 39, qui m'avait beaucoup frappé. Jésus dit, toutes les Écritures rendent témoignage de moi. Alors, je me dis, mais si toutes les Écritures, ça veut dire toute la Bible, il faut lire toute la Bible. Je me suis mis à lire. Waouh ! Je me suis dit, c'est impossible, il va falloir que je m'attelle à ça. Et finalement, ben, j'ai quand même été dedans. Et puis, je suis tombé sur quelques livres, à droite et gauche, parfois des livres qui étaient déjà vieillis. Quelquefois, j'ai retrouvé le même livre, édité par différentes maisons d'édition, de quelques auteurs protestants. Toutes les Écritures rendent témoignage de moi. Et c'était très pratique. C'était très pratique. Ou des livres, pas très compliqués, mais il fallait s'atteler à les lire, à les voir dans la Bible. Toutes les prophéties sont presque accomplies, il en reste quelques-unes. Ben, ça me posait des questions, évidemment. J'étais accaparé par mon travail, par toutes sortes d'activités, et par la famille et tout, et me voilà interpellé. Parce que en moi-même, je savais que ma vie était en train de chuter. J'étais en train de m'éteindre, même si je paraissais très vivant et très engagé et très actif. Alors, j'ai pris ce chemin-là de lire Moïse et tous les prophètes et les psaumes. Regardez bien ce qui se passe, Luc 24. Et c'est ça qu'il a fait pendant 40 jours, Jésus, avec ses disciples. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Il leur rappelle son sacrifice, il leur rappelle sa mort à la croix. Et bien sûr, il est vivant devant eux. Donc il leur rappelle aussi qu'il avait promis qu'il ressusciterait. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc Jésus, lorsqu'il nous rappelle ce qu'il a fait pour nous à la croix, son sacrifice et son amour pour nous, il y a quelque chose qui nous touche en nous, si nous voulons bien accepter d'être touchés. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et oui, évidemment, il y a beaucoup de places, d'endroits dans la Bible où on explique que Jésus allait mourir pour nous, et est mort pour nous. Et tout mon ministère maintenant, c'est de faire ça, c'est d'expliquer ça, pour que ce phénomène de vie nouvelle apparaisse chez le plus de personnes possible. Je me mets au service de ça. Pourquoi? Parce que Jésus le demande. Vous ne méritez pas de mourir et d'aller en enfer. Vous ne méritez pas de mourir triste et incrédule. Vous n'êtes pas né pour ça. Vous n'êtes pas né pour l'échec spirituel éternel. Maintenant j'en ai la conviction, mais avant, je passais devant quelqu'un qui n'avait pas la foi, ou si et ça, ce n'était pas mon problème. Ou parfois ça me chatouillait la conscience, ben, j'avais quand même pas fait le pas de me sentir concerné. Maintenant je suis concerné, pourquoi? Parce que ce que Jésus a fait pendant les 40 jours, c'est ce qui doit se passer maintenant, aujourd'hui, pour son retour. Il faut que vous soyez prêts et que je sois prêt. Et j'ai des responsabilités à votre égard, comme envers ma famille, envers tout le monde, et moi-même. Donc Jésus se présente au verset 36 et il dit « La paix soit avec vous ». Il y a une qualification spirituelle très importante lorsque quelqu'un fait l'expérience de Jésus. On le voit qu'il trouve la paix. Et ça, mes amis, ça c'est quelque chose, avec l'habitude, je le vois tout de suite quand je vais chez quelqu'un, il y a des paix durables qui sont nées au fond du cœur et qui grandissent. C'est une germination continuelle de vie, c'est une abondance et c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas. Ça, la paix est un cadeau qui vient du ciel, qui vient de Christ et c'est le signe qu'on a une connexion déjà, même si on ne connaît pas encore bien Jésus, le Christ, Jésus, cette paix est le signe avant-coureur de cette vie, cette belle vie avec lui. Alors, verset 37, il leur souhaite la paix, il veut leur donner, mais l'étape humaine, l'étape charnelle, c'est saisie de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, un fantôme, hein, un fantôme, il croit y voir. Donc, la frayeur et l'épouvante peuvent faire partie d'un phénomène spirituel lorsqu'on va dans le chemin vers Jésus. Cette frayeur et cette épouvante, c'est la même qu'Adam et Ève qui se cachaient dans le jardin, dans le paradis terrestre. C'est quelque chose. C'est dû à la rupture qu'il y a eu entre Dieu et Adam et Ève. Ils nous ont transmis. Ils se cachaient, ils avaient peur de Dieu. Et cette frayeur est inexplicable en nous. Elle est là. Elle est bien là. Et Satan le sait. Il peut mettre de l'huile sur le feu, de l'essence sur le feu, pour qu'on continue à avoir peur d'aller vers Jésus. Peur de Dieu, alors qu'il nous aime. Alors que le Christ est tout à fait amour pour nous. C'est une arme redoutable, l'épouvante et la peur. J'ai des contacts régulièrement, individualisés, au téléphone ou par écrit, avec des personnes qui sont dans l'épouvante, dans la peur. Pourquoi ? Parce que quelque chose n'est pas encore établi solidement avec Dieu. Alors qu'ils désirent, ils me disent qu'ils ont la foi, ils désirent être avec Dieu, ils ont encore ce problème-là. Et il faut une guérison progressive, une clarification. Et c'est pas toujours simple. Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ? Donc Jésus est là, avec, il est patient, il a de l'amour, il fait attention. C'est un bon médecin pour nos âmes, Jésus. C'est le vrai médecin. Il est venu pour nous guérir de notre âme moribonde. Alors, bien sûr, ils sont dans la joie quand ils voient les mains et les pieds de Jésus. Vous voyez le texte. Il leur montre ses mains et ses pieds. Ils sont dans la joie. Mais regardez au verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. C'est bizarre pour nous, ce genre de repas. Mais dans certains pays, c'est un repas de base qui nourrit bien. Un poisson rôti, un rayon de miel, ben oui. C'est des éléments de base qu'il y a dans la nature et qui nourrissent des peuples entiers. Nous, on est habitués à acheter toutes sortes dans les magasins et on trouve ça drôle, mais c'est pas vrai. Il m'est arrivé au Bénin de manger et d'avoir des repas comme ça avec les personnes. Alors, c'est millénaire ce genre de repas. Et c'est bien nourrissant. Alors, nous voyons qu'ils sont dans la joie, la peur est partie, mais la peur a laissé quelque chose de drôle, de l'étonnement, la perplexité, encore plein de questions où on n'est pas encore sûr. On n'est pas encore sûr, ouh là 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 là. L'incertitude, le manque de conviction. On est encore ébranlable. On n'est pas encore ferme dans la foi. Elle commence, mais on tourne en rond, de temps en temps, ou souvent. Alors, Jésus, bien sûr, leur montre qu'il mange comme eux, qu'il est vraiment ressuscité, que ce n'est pas un fantôme, qu'il est vraiment, réellement ressuscité, qu'il est vivant, corps et âme et esprit. Et il leur dit, au verset 44, ceci, et 45, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les écritures. La guérison spirituelle. Il leur ouvrit l'esprit. Les amis, c'est une œuvre de Dieu, la foi. C'est une œuvre de Dieu. Et ça prend du temps. C'est pour ça qu'il a fallu 40 jours. C'est pas par hasard. Et ressusciter, pas monter au ciel 4 minutes après ou 4 heures après. Parce qu'il nous connaît. Il sait combien il faut remettre le travail et préparer le terrain. Donc, fonder de nouveaux peuples, c'est extrêmement important. Fonder de nouveaux peuples selon les Écritures, qui touchent non seulement le cœur, mais où Jésus ouvre l'esprit. C'est comme si avant, notre esprit est mort, il est fermé, c'est une boîte fermée. Il faut l'ouvrir pour recevoir ce que Dieu dit. C'est extrêmement important. C'est pour ça que Paul dit, dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, que l'esprit de l'homme déchu est incapable d'aller vers Dieu. Il est animal, l'homme. Pour commencer, il est animal. On a l'habitude de considérer le chat et le chien comme des bêtes. Oui, comme des bêtes. Ça nous arrange de croire que les animaux sont bêtes. Mais ce n'est pas si vrai que ça. Quand on observe les oiseaux, les chats, les chiens, tout le reste, ils sont vachement intelligents. Et on se méprend sur nous-mêmes. Puisque on se croit supérieur à eux, on croit qu'on est intelligent, on croit que notre esprit fonctionne. Et c'est là que la méprise. Je lis 1 Corinthiens 2, 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Donc l'homme animal, il fonctionne comme l'animal. Son esprit n'est pas ouvert encore. Car l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il faut que le Saint-Esprit vienne et guérisse. Avez-vous compris? Je l'espère que vous comprendrez, en tout cas, si vous méditez ce texte. Dans 1 Corinthiens 15, verset 42, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42, non, verset 46. 1 Corinthiens 15, verset 46. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est lourd de conséquences. Il faut être très humble pour reconnaître que nous avons besoin de Christ pour devenir un être spirituel. Il faut être très humble. Et il faut le demander, humblement. Et il donne. Il donne. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Alors, 1 Corinthiens 15, 46, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, donc nous sommes tous nés du ventre de la maman, c'est ça le premier homme, la première femme, tiré de la terre, est terrestre. Nous ressemblons à Adam et Ève. Le second homme est du ciel. Nous recevons une nouvelle nature. Tout en m'appelant Jean Bayeux, je reçois à un moment donné, par la grâce de Dieu, une autre nature. Je deviens un être spirituel. J'apprends à connaître et je sais qui est Jésus, qui est Dieu. Et j'ai trouvé. Pas parce que je suis meilleur que les autres, mais parce que Dieu me l'a donné. Et donc, je suis passé de l'état animal à l'état spirituel. Et donc, pendant les 40 jours, c'est un travail immense. Et quand ils ont les bases, il faut que Jésus s'en aille et qu'il donne le grand cadeau, la présence du Saint-Esprit dans ces personnes. Le Saint-Esprit vient et va tout éclairer. Jésus a été un fidèle serviteur de Dieu jusqu'au bout. Pour préparer le nouveau peuple, un nouveau peuple qui est spirituel et non pas basé sur des obligations, des contraintes, la culpabilité, l'angoisse et une séparation éternelle avec Dieu, malgré qu'il y a la religion, l'application de la religion, il y a une séparation éternelle. Les sacrifices, les rites ne remplacent pas la vie éternelle, ne donnent pas la vie éternelle. Donc c'est clair. J'espère, c'est un sujet qu'on pourrait encore approfondir énormément. Le deuxième point, pourquoi les 40 jours, Jésus? Eh bien, quand tous ces hommes et ces femmes sont prêtes à recevoir le grand cadeau qui vient du ciel, du Père, le Saint-Esprit, hein, pour être conduits dans la vérité, eh bien, il faut créer l'unité des frères. Nous ne pouvons pas recevoir l'Esprit Saint si nous n'acceptons pas d'être unis aux autres dans l'Esprit Saint. Ça, c'est une clé. Quelqu'un qui veut être chrétien, individualiste, égocentrique, pour moi, n'a pas reçu l'Esprit Saint. Il est impossible, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que Dieu a voulu, par l'Esprit Saint, créer l'unité. Alors, nous allons reprendre des textes. Jean, Chapitre 14, verset 13. Verset 12 et 13. Jean 14, verset 12 et 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, conduites par l'Esprit Saint. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ah, le chrétien peut faire une multitude d'œuvres et le peuple de Dieu peut multiplier les dons célestes, les mettre en pratique. C'est la parabole des talents dans Matthieu 25. Dieu veut abonder, il redonne 5 à celui qui a mis en œuvre les 5 premiers, etc. Donc à celui qui a, on donnera encore, dit Jésus, à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. C'est clair, celui qui reçoit l'Esprit Saint est dans l'abondance des biens spirituels, s'il obéit au Seigneur. Et c'est cela que ça veut dire. C'est pas pour en faire un champion qui fait tomber des gens par terre en imposant les mains ou en ramassant les sous de tout le monde. C'est pas ça. Ou en ayant 500 ou 2000 personnes au culte. Ce n'est pas ça. Jésus n'avait pas 2000 personnes derrière lui à sa résurrection. Ce n'est pas ça. L'œuvre du Saint-Esprit permettra de faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens chapitre 2, verset 8, la foi est un don, mais afin que nul ne se glorifie, c'est un don qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Afin de pratiquer les œuvres préparées d'avance par Dieu. Éphésiens 2, 8. Eh bien, pratiquement, les œuvres grandes ici, c'est celle-là. C'est celle que Dieu veut, pas que moi je veux. Pas que je programme pour me mettre en valeur ou pour faire une église puissante, rayonnante et humaine, tout compte fait. Alors, on peut demander à Dieu ce qu'il aime donner. Et c'est pour ça qu'au verset 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. En mon nom. Ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire que c'est tout ce que Dieu aime qu'il fera en nous. Et je ne peux demander que ce que Dieu aime. Et où est-ce que je peux savoir les choses que Dieu aime? Mais je regarde comment Jésus vit. Je regarde ce que Jésus a pensé et dit. Et surtout ce qu'il n'a pas fait et il n'a pas dit. Donc, en mon nom, c'est clair. C'est selon ses enseignements, tout ce qu'il a prescrit, tout ce qu'il a enseigné. Toute sa parole. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que ce verset-là permettait de demander n'importe quoi. Il me faudrait 5 millions demain, ou tout d'un coup, il faudrait que j'ai une belle voiture, une belle grosse voiture, etc. Oh. Je voudrais bien une belle femme. Je voudrais bien un beau monsieur, un beau mari. Mais est-ce que c'est ça que Dieu demande, a dit, dans sa parole? C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Ça, c'est des caprices d'enfants tordus, mais pas d'enfants de Dieu, d'enfants du diable. Prenons chapitre 16. Chapitre 16. Jésus dit au verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Donc c'est l'ascension. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Ils sont tristes, hein. Ben, on l'a vu dans le texte de Luc 24, ils étaient tristes. C'est une des étapes spirituelles avant le véritable aboutissement à la foi, hein. Alors, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Donc ils sont immergés. Et vous voyez, les disciples d'Emmaüs et tout ça, reméditez ce chapitre 24 de Luc. Et voyez ce verset. Il était au bout là. Et cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc le Paraclétos, le Saint-Esprit, le Protecteur, le Consolateur viendra. Il faut une rupture par rapport à Jésus. Au bout de 40 jours, Jésus monte au ciel, et après le Saint-Esprit vient. Pourquoi il faut une rupture? Pour grandir. C'est ce que je vous disais déjà hier dans la prédication. Un papa, une maman surprotecteur sur les enfants, qui protège tout, qui arrange tout pour eux. Qui arrange tout pour eux. Ils ne vont jamais être libres. Et ils n'auront peut-être jamais une relation de fils avec le papa ou de fille avec la maman. Parce qu'ils ont été surprotégés. Parce qu'on a voulu trop faire. Parce qu'on avait des angoisses et des insécurités, on voulait le meilleur pour eux. On a fait parfois le pire. Dieu nous montre là sa pédagogie. Il faut une rupture, il y a 10 jours de vide, de manque, et ils vont recevoir l'Esprit Saint qui va les conduire. Et ils vont devenir adultes dans la foi. Adultes avec Dieu dans leur vie. Voilà. J'espère que vous avez compris toute la démarche des 40 jours et la démarche des 10 jours qui suivent. C'est extrêmement important. Dieu est un véritable pédagogue. Il sait comment nous prendre pour nous conduire à un état d'homme fait, de femme faite, adulte, ayant une foi libre et responsable. On préfère rester enfant, on préfère rester surprotégé, on préfère grandir à moitié. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Il nous veut dans la stature de Christ, pleinement accompli en lui. Alors, Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, donc l'Esprit Saint, qui est la vérité, la même vérité qui sortait de Jésus dans sa vie, dans ses actes, dans ses paroles et tout, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, donc tout ce qui se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint en Dieu, et dit dans notre cœur, dans notre âme, par l'Esprit Saint. » Le jour qu'on l'a reçu, c'est comme ça que ça se passe. On sait très bien faire la différence quand on est né de nouveau entre ce qu'on pense et ce que Dieu pense. On le sait, on le sent et on ne peut pas chipoter. Il y a quelque chose d'autre qui est apparu. C'est plus la même chose qu'avant. C'est fini de tourner alentour de soi-même et d'être narcissique, tout compte fait, égocentrique. Alors, il dira tout ce qu'il aura entendu dans le Dieu trinitaire, il vous annoncera les choses à venir, il vous conduira, il vous dira où vous devez aller, ce que vous devez faire et ne pas faire, si vous aimez l'écouter, hein, bien sûr. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, l'Esprit Saint va mettre à l'honneur Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il va prendre dans mon cœur, il va me faire aimer les paroles que Jésus a dites. Il va me faire aimer les textes d'évangile où il parle, où il est. Je vais avoir soif de le retrouver. Et c'est ça, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est lui qui donne cette passion de la vérité et de la proximité de Jésus et de la connaissance des pensées de Jésus, des paroles de Jésus. C'est lui qui fait ça. Alors, je vous ai dit que le deuxième point, c'était, bien sûr, ça aboutissait à l'unité des frères. Il fallait la vérité, je vous en ai parlé, et l'amour, il faut l'unité. D'où vient l'unité ? Jean 17, versets 20 à 21. Ce n'est pas pour eux, parce que Jésus prie, bien sûr, il prie pour ses disciples, les apôtres, hein, mais voilà, tout de suite, dès le moment où la Pentecôte va arriver, c'est un rush qui va arriver. Sur quelques jours, il y a 25 000 convertis. Il y a un rush qui se prépare derrière. Dieu le sait déjà, lui. Donc, il a prié pour ses disciples. Hein, vous lisez Jean chapitre 17, vous verrez. Verset 17, hein, Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc il prie pour les apôtres, là. Mais alors, Jésus le sait, après la Pentecôte, c'est le rush. Et comment faire s'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas sur pied ? Sinon pas des bonnes fondations. Vous imaginez le tableau, la pagaille, l'égarement, Et puis, tout le monde vient avec ses passions, ses questions et tout ça. Et tout va se mélanger. On n'aura jamais la vraie foi sur les 25 000 et dans les premières églises de Jérusalem et dans les églises autre part du premier siècle. On aura... Mais si, Jésus le veut, la vraie foi. Et donc, pour cela, Jésus a une prière très forte. Jean 17, verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc il parle à son Père, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc, après la Pentecôte, boum, ils croiront en moi par leur parole. Et ça commence tout de suite. Lisez les Actes des Apôtres, les quatre premiers chapitres, vous allez voir comme ça. Ça démarre en flèche. Hein? « Afin que tous, verset 21, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc vous voyez, dans le verset 21, « Afin que tous soient un, et à la fin du verset 21, que aussi soient un en nous. » C'est pas un, comme derrière... un drapeau, et puis on a la baïonnette, on attaque les ennemis. C'est pas un comme dans une banque, on va tous se fidéliser, on va tous conquérir le marché, etc. Hein? Ou dans une entreprise, on va être tous unis, on sera plus fort et on va arriver à faire du bon boulot, on supplantera les autres. C'est pas ça. C'est un en nous, c'est un en Dieu. Vous comprenez? C'est un dans la vérité de Dieu. Dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et donc, l'unité des frères, c'est une unité donnée par Dieu. C'est une unité qui dépasse le règne animal, qui est totalement spirituelle. Elle dépasse le monde d'Adam. C'est l'unité du royaume de Dieu. C'est Christ qui est roi. C'est pas l'unité sous la loi, comme avec Moïse, c'est l'unité dans le Saint-Esprit. Et toutes ces personnes-là, pour vivre cette unité, vont donner leur vie à Jésus pleinement. Et ils vont partager leurs biens. Et ils vont partager leur temps. Ils vont rendre grâce ensemble à Dieu. Ils vont mener une nouvelle vie, une vie communautaire, collégiale. Ils sont sortis du système des fausses valeurs et ils ne veulent plus y retourner. Alors... quel est l'ennemi de l'unité? Quel est l'ennemi du nouveau peuple? Puisque nous avons parlé que Jésus monte au ciel à l'ascension, il a dit qu'il revenait. Vincent, hier, vous l'a présenté dans son temps de présidence, par des prophéties de l'Ancien Testament et des paroles de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui peut être dangereux pour ce nouveau peuple chrétien? Et qui a été dangereux tout au long de son histoire, et qui a fait perdre beaucoup de gens dans les mauvais chemins. Qu'est-ce qui est dangereux, et qui pourrait nous faire rater le rendez-vous avec Jésus? Mais Jésus l'a expliqué de façon à ce qu'on soit au rendez-vous. Et donc, prenons Luc, chapitre 17. Restez fondés dans les Écritures, c'est clair. De rester fondé en Dieu dans l'unité des frères. C'est clair. Mais qu'est-ce qui peut nous saboter ça? Ah, ben, c'est peut-être idiot, mais c'est assez simple. On peut aller dans toute la Bible chercher des tas d'autres raisons, mais je pense qu'il faut être simple. J'ai encore 7-8 minutes avec vous. Voici, dans Luc 17... Verset 22, il dit aux disciples, « Des jours viendront, vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici ou il est là. » Les témoins de Jéhovah ont fait ça, etc., les adventistes, d'autres. Hein. « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Vous savez qu'un éclair se voit, hein, par tout le monde. Et clairement, le jour de Jésus sera visible. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Donc c'est arrivé. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc au moment où Jésus va revenir, on connaît les mêmes problèmes qu'à l'époque de Noé. Mais voyons, simplement, Noé avait une foi extrême en Dieu, était intègre et faisait la volonté de Dieu. Il était fidèle. Et il annonçait cela aux autres, il dit, il faut changer. Le monde est corrompu, il faut changer. Parce que Dieu va le punir, va punir ce monde. Il y aura un déluge. Il a prêché 100 ans. Vous imaginez. Il était patient. Il a construit son arche, il a fait monter sa famille dedans, toute sa famille, puis un jour Dieu ferma la porte. Puis l'eau est montée. Du fond des océans, vous savez que le magma terrestre peut fabriquer de l'eau. Et puis, en plus, il y a eu la pluie, et donc le déluge est arrivé. Et il y a des preuves scientifiques d'un déluge, de toute façon, maintenant. Parce que longtemps, on en a rigolé. C'est fini d'en rire. On a des signes de tout ça, scientifiques. Alors, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, Noé a résisté au climat de son époque. Que faisaient les gens à cette époque-là? Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, et se démariaient, bien sûr. Et répudiés, etc. Et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Qu'est-ce qu'on voit? C'est ce qu'on voit tous les jours partout. On fait des mariages, on les défait, on les recommence, etc. Et surtout, on mange et on boit. Et rappelez-vous ce que Romains 14, 17, le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais paix, justice et sainteté selon Saint-Esprit. Vous avez vu le contraste. Et donc, voilà, à l'époque de Noé, Noé était pour le royaume de Dieu et les autres pas. Ça veut dire que pour le retour de Jésus, il y aura des tas de gens qui vont entendre la parole de Dieu et qui vont se moquer. Des Noé qui parlent, de mon genre ou d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Et ils vont continuer. Ils vont faire ça, et puis un jour, est-ce que le coronavirus va faire réfléchir? Oui, je pense qu'il fait déjà réfléchir. Puis d'autres choses vont faire réfléchir, elles vont venir. Tout ça est décrit dans certains livres de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce que Dieu donne des avertissements, comme par Noé il a donné des avertissements. Et finalement, un jour c'est fini. Jésus sera là, et il sera trop tard pour ceux qui n'auront pas voulu changer de cap, de vie. Mais regardons, il y a un autre homme qui croyait en Dieu, et qui aimait Dieu. Et il n'est pas tout à fait comme Noé. Mais je pense que les deux figures qu'on a là, Noé et Lot représentent bien le monde d'aujourd'hui, qui se dit chrétien. Je dis bien, qui se dit chrétien. Verset 28, Luc 17, 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Vous avez vu la ritournelle? À quoi on s'occupe? Le piège sublime. Hein? Mais le jour où Lot sortit de Sodome et Gomorre, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc Lot est sorti. Comment est-il sorti de Sodome, lui? Eh bien, figurez-vous, ce n'est pas tout à fait le même genre de bonhomme que Noé. Pourtant, dans l'épître de Jacques, la parole de Dieu nous dit qu'il était juste, il a été pardonné de ses péchés. Mais voilà ce que a fait Lot. Il voulait réformer Sodome, il voulait rester avec et transformer la société. Mais il n'y est pas arrivé. La société se moquait de lui. Il continuait à vouloir transformer. Il se tenait à la porte, il faisait partie des magistrats, des juges, etc. Il avait une place. Et quand les deux anges, les deux hommes, qui étaient des anges, des envoyés de Dieu, sont venus chez lui, les gens de la ville l'ont appris. Ils se sont dit, oulala, Dieu se mêle de nos affaires. Dieu se mêle de nos problèmes. Dieu se mêle de nous venir faire quelque chose. Lot, on l'a supporté, mais si Dieu vient chez lui, si les anges viennent chez lui, alors là, ça va bien. Ça commence à bien faire. Hein. L'autre, on l'a supporté, mais plus, pas. Hein. L'autre attrape peur, et il sait qu'on veut casser la porte, et il est mis dans les textes qu'on veut violer les deux hommes, les sodomisés. C'est le mot sodome, sodomisé. Ce qu'il fait, pour contenter la foule et pour préserver les deux anges, parce qu'il a la crainte, il sait que c'est deux envoyés de Dieu, il a la crainte, il lâche ses deux filles vierges en pâture dans la rue. Et vous voyez à quel point cet homme qui aimait Dieu, parce qu'il voulait continuer à rester dans cette société, qui voyait bien qu'elle ne voulait pas changer, eh bien, il a trop traîné, trop tardé. Il n'est pas sorti à temps. Et dans sa panique, dans son épouvante, il a eu des attitudes et des décisions inconséquentes. Il a fait des choses qu'il ne devait pas faire pour sa fille. Il a fait des choses graves. Alors je me pose la question, mes chers amis, je me pose la question aujourd'hui, j'ai encore quelques minutes. Est-ce que dans les familles chrétiennes, beaucoup d'hommes et de femmes adultes qui sont chrétiens, qui veulent persister dans la vie chrétienne de ce monde, dans la vie de ce monde, et à vouloir le changer et à mitiger avec le monde, mitiger, et ne pas provoquer plus de choses radicalement nettes et claires, est-ce qu'ils ne donnent pas leurs enfants au monde? Eh bien, moi, je pense que depuis 50 ans, ou même plus, nos familles chrétiennes ont beaucoup donné d'enfants au monde. Dans toutes sortes de choses où ils se sont perdus. L'image des deux filles de Lot, c'est l'image des enfants, de beaucoup d'enfants, de nos familles, pour ce temps avant le retour de Jésus, qui à mon avis n'est pas loin, c'est l'image de beaucoup d'enfants, de jeunes gens, de jeunes filles chrétiennes, qui n'ont pas été clairement mis à part par leurs parents. Il aurait fallu rompre avec certains métiers, rompre avec certaines situations financières, rompre avec certains milieux, et s'en aller de là, prendre les enfants et s'en aller, ne pas les laisser au contact de ce milieu-là. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu dans l'Apocalypse? Sortez, fouillez cette génération perverse. Dans les Actes des Apôtres, Pierre l'enseigne aussi. Fouillez cette génération perverse. C'est quelque chose de très important. Lorsque on ne fait pas une rupture suffisante, on donne nos enfants comme l'autre les a donnés. Et regardez ce qui s'est passé. C'est que les arrière-arrière-petits-enfants de Lot, via les deux fils, c'est Moab et Ammon, ce sont des tribus qui tout le temps font la guerre au peuple de Dieu. On a parmi les descendants des ennemis au peuple de Dieu. Chose drôle et bizarre. Analysons l'histoire de l'Europe et nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de choses à retirer de ce que je viens de dire pour lire et comprendre l'histoire de l'Europe depuis 150 ans. Actes des Apôtres. Si Jésus, dans l'évangile de Luc, se réfère à Lot, c'est pour que nous réfléchissions à ce qui s'est passé pour Lot et à sa descendance. Et s'il l'a dit, c'est pour que nous réfléchissions à l'avenir de nos enfants et des descendants par la suite. Les descendants qui seront peut-être des ennemis farouches de l'évangile, de Dieu, de la foi chrétienne. Et ça s'est avéré. Ça s'est avéré vrai. Je pourrais prendre plein d'exemples. Alors, j'essaye de trouver, parce que c'est un verset que je n'ai pas préparé, où Pierre dit « fouillez cette génération perverse ». Oui, voilà, je l'ai trouvé. Actes, chapitre 2, verset 40. Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Est-ce que nous allons entendre cela ? Est-ce que nous avons le courage d'avoir des choix bien précis et clairs en tant que parents chrétiens ? Ou est-ce que nous allons laisser aller, comme les filles de Lot, la descendance qui sera dans l'opposition farouche ? Tous les meilleurs ennemis de la foi chrétienne aujourd'hui sont venus d'un milieu chrétien, catholique ou protestant. Tous les meilleurs ennemis qui ont fait des livres, qui ont fait toutes sortes de choses, sont nés là-dedans. Et qui ont été, comment ? Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu un enseignement chrétien. C'est parce que la vie des parents et la prise de position dans la société n'était pas assez claire. On leur laissait une instruction morale, des règlements, et la vie était une vie de compromis. Et quand ils ont vu leur compromission, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. On ne peut voir que ce qu'on croit. Les gens d'aujourd'hui doivent voir des vrais chrétiens engagés avec des choix clairs. On ne peut voir que ce qu'on croit aujourd'hui pour un incrédule. Il doit voir des chrétiens solidement attachés à Jésus avec des choix clairs. Non pas par haine des autres, non pas par mépris, sans jugement. Mais on doit reconnaître le noir et le blanc. On doit reconnaître le vrai et le faux. On doit reconnaître ce qu'est Jésus à travers certains chrétiens. Et chers amis, ce que je voulais vous dire, pour terminer, c'est que les 50 jours qui ont suivi la mort de Jésus sont l'image du travail que Jésus a voulu faire pour préparer son peuple à tenir le coup jusqu'au moment où il va revenir. Il savait que s'il ne passait pas ces 40 jours-là, physiquement, spirituellement avec eux, plus les 10 jours de sevrage et le don du Saint-Esprit, il savait que s'il n'y avait pas tout ça, il ne tiendrait pas le coup. Il n'y aurait plus un seul chrétien sur la terre quand il reviendrait. Mais voyez, Luc 17, il y a quand même beaucoup à méditer sur ce texte. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de méditer, de réfléchir. Retirez-vous dans la nature tout seul, dans votre chambre. Prenez tout ça à cœur, prenez votre Bible. Cherchez Dieu. Oubliez-moi, cherchez le Seigneur. Bonne soirée, que Jésus vous bénisse.